un caillou dans la chaussure, bonjour. En septembre, c'est aussi la rentrée culturelle autour de l'enfance et aujourd'hui, le programme est dense. Nous parlerons du prochain festival Les Littorales du 7-11 octobre à Marseille et notamment en ce qui concerne l'enfance, nous accueillerons la compagnie Peanuts à propos d'un spectacle autour de la figure du bouc émissaire. Comme nous aurons la chance de voir en avant-première nationale le long métrage Panique au village, nous l'évoquerons. Nous évoquerons aussi les artistes Munari, Komagata pour des animations dans la ville. Au cœur de l'émission, nous retrouverons Nathalie Guimard pour la rentrée du petit cinéma. De Photokino. Nathalie, bonjour.
Bonjour Marie-Dominique. Et pour son passage en quatrième année, le petit cinéma vous propose de l'évasion. Yippie, partez au galop sur crin blanc ou envolez-vous avec le ballon rouge.
Et tout de suite, à l'occasion d'une exposition autour des œuvres d'Anthony Brown à la BMVR L'Alcazar, nous recevons Anne-Marie Faure qui anime l'île au livre pour visiter l'enfance par le truchement du regard des personnages de Marcel le chimpanzé et autres gorilles déjà connus, tout droit venus d'Angleterre. Anne-Marie Faure, bonjour, ravie de vous accueillir dans cette émission.
Bonjour.
Alors, vous animez l'île aux livres au cœur de la BMVR L'Alcazar, un centre de ressources autour de la littérature jeunesse. Quelle est sa fonction?
Alors oui, c'est ça exactement. Donc l'île aux livres est un centre de ressources en littérature de jeunesse, c'est-à-dire que c'est un service assez particulier au sein de l'Alcazar, où nous avons deux missions principales qui sont à la fois la conservation du livre de jeunesse et la valorisation du livre de jeunesse. Donc bon, ben je vais pas tout expliquer ici, ça serait un peu long, mais bon, nous achetons des livres anciens, des dessins originaux. Et nous avons plus de 39 000 livres en magasin. Et puis, donc ça, c'est pour l'aspect donc, conservation. Et puis, donc, ce pourquoi je suis ici ce matin, c'est aussi l'aspect valorisation de toute cette littérature de jeunesse. Hein, parce que la conservation, bien sûr, c'est très important pour nous en tant que bibliothèque, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Donc, il faut des actions de valorisation. Donc beaucoup de formations, de journées professionnelles et chaque année une grande exposition donc dédiée à un artiste lié à la littérature de jeunesse.
D'accord. Alors cette année, c'est Anthony Brown qui est mis à l'honneur, donc un auteur illustrateur de livres marquants dans la littérature jeunesse, des albums principalement reconnaissables parmi tous. Alors qui est Anthony Brown? Pourquoi avoir choisi Anthony Brown?
Alors bon, ben très rapidement, si bon pour présenter Anthony Brown. Donc c'est un auteur illustrateur anglais. Donc il est né en Angleterre donc en 46 pour le situer d'une manière biographique très très rapidement. Il fait des études d'art graphique à Leeds. Il va commencer sa carrière comme artiste médical. Ce qui est intéressant à savoir, donc il fait des comptes rendus d'autopsie à l'université de Manchester. Donc c'était pas sûr qu'il aille après dans la littérature de jeunesse. Alors, comme beaucoup d'artistes donc qui travaillent en littérature de jeunesse, pendant un certain temps, il va vers la publicité, hein, puisque c'est une possibilité hein, quand on travaille patron en littérature de jeunesse. Il fait aussi des cartes de vœux. Et puis, très vite, il va connaître un succès international avec donc Anna et le Gorille, donc à peu près en 1983. Et à partir de là, il peut vraiment se consacrer à ce, je crois, qu'il aime faire et qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire les albums. Mm-hmm. Voilà.
D'accord. Alors, des albums, je disais tout à l'heure, reconnaissables parmi tous, hein, des albums singuliers, visuellement, qui sautent aux yeux. Hein. Mm-hmm. Et peut-être pour rentrer tout de suite dans le détail de son œuvre et ce qui le caractérise, déjà, au premier abord, il y a donc des personnages récurrents, des chimpanzés et des gorilles. Alors, ça vient d'où, ça? Pourquoi est-ce qu'il s'attache à ces personnages?
Alors, bon, pourquoi chimpanzé et gorille? Je ne saurais peut-être pas répondre à cette question, mais ce qui est sûr, c'est que chez Anthony Brand, on trouve des singes. On trouve notamment un petit chimpanzé qui s'appelle Marcel en français. D'ailleurs, on l'appelle Willy en Angleterre. Et c'est vraiment très, très reconnaissable parce qu'il y a d'abord plusieurs titres qui sont consacrés à Marcel. Hein, donc,
c'est une série, comme une série.
C'est une sorte de série, mais c'est bien mieux qu'une série quand même. Hein, parce que quand on dit série, ça peut vouloir dire...
Ça peut induire l'idée de reproduction.
Voilà, de tirer un peu sur la corde, hein, sur le filon, tout à fait. Alors que là, pas du tout. Et de plus, les personnages des singes, donc gorilles et chimpanzés, on va les trouver aussi dans d'autres titres que les Marcel. Alors moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce personnage des singes, c'est que bien sûr, on sait tous que les animaux, ça attire les enfants. Souvent, il y a des reproductions, bon, ce qu'on appelle anthropomorphisme, hein, mais des reproductions animales pour parler aux enfants, hein, parce que c'est plus simple, ça leur parle plus directement. Et c'est vrai que Marcel parle directement aux enfants, mais je dirais qu'il y a deux niveaux de lecture chez Anthony Brand, parce qu'il y a la petite histoire de Marcel qui est directement compréhensible. Marcel, bon ben, il va lui arriver, il va se retrouver un peu comme l'enfant, un peu faible, pris dans le monde des gorilles, qui, eux, disent ce qu'il faut faire. Les gorilles savent toujours ce qu'ils doivent faire. Ils vont toujours se moquer de Marcel, qui est le petit, qui est le faible. Et Marcel, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est qu'il va toujours trouver sa voix. Et c'est une voix qui est personnelle. Malgré, j'allais dire, le qu'en dira-t-on des gorilles. C'est ça qui est important. Alors, si on y réfléchit un peu, ça veut dire que ces petites histoires qui peuvent sembler au départ, j'allais dire, un peu anodine, dite pour enfants, on pourra revenir là-dessus. Mais en fait, ça traite de quoi? Ça traite des rapports sociaux. Ça traite des rapports de force dans la société. Et ça, bon, bien sûr, on va pas le dire comme ça aux enfants, hein, parce qu'on va pas leur casser l'envie de lire les Marcel, hein. Mais nous, adultes, on va trouver autre chose dans ces livres-là. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que, et je dirais, comme dans la grande littérature, il n'y a pas de manichéisme. Je finis mon idée. Oui. C'est-à-dire que les gorilles que, bon, j'ai peut-être présentées comme les grosses brutes épaisses qui disent, bon, ce qu'il faut faire, en fait, par moment, il va y avoir un changement d'attitude de leur part, et c'est eux qui vont se retrouver en difficulté, c'est eux qui vont prendre conscience de peut-être de la difficulté de la vie. Hein. Et il y a un très beau texte qui s'appelle Une histoire à quatre voix, où justement on inverse la proposition et c'est le gorille qui est chômeur, qui a des difficultés, etc., etc. Donc on voit que c'est pas simple, c'est comme la vie.
Tout à fait. Donc dans l'apparente banalité des faits, des images, souvent réalistes d'ailleurs,
très réalistes.
Il y a aussi d'un point de vue graphique et aussi en ce qui concerne l'articulation entre les textes et les images, des clins d'œil. Justement, vous avez déjà bien avancé sur l'idée, sur le rapport dans la société, les rapports de tyrannie, de pouvoir, etc. Et donc tout ça, ça cache... cette apparence familière, facile, d'une lecture facile dans un premier temps, donc cache effectivement une épaisseur psychologique des personnages et une entrée en matière en ce qui concerne un regard critique éventuellement à porter sur la société et sur les rapports entre les humains. Donc du coup, c'est le propos d'Anthony Brown.
Et je dirais aussi qu'il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse, parce que là, on a vu les rapports de force, force dans la société, parfois dans certains de ses albums, notamment dans un titre qui s'appelle Le Tunnel, ce qui est intéressant, c'est le rapport du féminin et du masculin. Et là encore, je le redis, bien sûr que pour les enfants, on va lire tranquillement le texte du Tunnel sans expliquer tout ça, mais si les adultes qui vont lire le texte vont très bien voir qu'il y a deux personnages centraux, donc un frère et une sœur, qui font penser d'ailleurs au Hansel et Gretel, on y reviendra peut-être. Et dans le Tunnel, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, on a la petite fille qui a plutôt les valeurs féminines, elle lit, elle est tranquille, elle est dans sa chambre, tandis que...
Oui, parce
en fait,
parallèlement à ça, les chimpanzés et les gorilles, eux, sont très, très virils quand même.
Ah oui, voilà, donc il y a une espèce de contrat. Mais là, dans le Tunnel, on a des personnages entièrement humains. Et le petit garçon, ce qui me semblait intéressant, c'est que le petit garçon, lui, il porte plutôt les valeurs viriles. Donc, il joue au foot, il est toujours dans le mouvement, il fait peur à sa sœur. Et puis, ils vont passer dans une sorte de... alors que le texte, au départ, se situe dans une ville, il y a un terrain vague. C'est vraiment une ville, en plus, d'aujourd'hui. C'est pas du tout une ville bien léchée. C'est ça aussi qui est intéressant. Je connais pas Londres, mais au faubourg un peu louche de certaines villes. Et par le tunnel, ils vont rentrer dans un autre monde qui est une sorte de monde des contes. Et à ce moment-là, le petit garçon va avoir un maléfice. Il va se pétrifier. Et c'est elle donc chargée des valeurs un peu féminines, parce qu'elle sait les contes, parce qu'elle a lu, parce qu'elle a eu une sorte de connaissance comme ça, qui va arriver à le défaire de ce maléfice. Et là aussi c'est intéressant, parce qu'on joue justement sur une réalité d'aujourd'hui très urbaine, et on ouvre sur un monde qui est le monde du conte. Et le monde du conte aussi, et c'est quelque chose de très important dans l'œuvre d'Anthony Brown.
Oui, bien sûr. Donc, il ose, non seulement il crée des histoires, mais il ose aussi, et il est très intéressé par aller voir donc dans le patrimoine, en fait, dans ses contes classiques. Donc, il a illustré Alice au Pays des Merveilles, Hansel et Gretel.
Et Hansel et Gretel. Si vous voulez, on peut juste dire par rapport à Hansel et Gretel. Voilà, alors là, c'est un livre qu'il a illustré quand même, j'ai pas la date exacte, mais au début des années 80. Et ce qui est alors absolument extraordinaire, c'est que on a le texte des frères Grimm, il n'y a rien de changé. Donc tout le monde plus ou moins connaît l'histoire d'Hansel et Gretel. Et l'apport d'Anthony Brown, qui est absolument extraordinaire, c'est qu'au lieu de nous mettre dans cette illustration propre au conte, c'est-à-dire la forêt, c'est-à-dire un temps qui n'est pas défini, une misère qui date un peu moyenâgeuse, j'allais dire, une misère des contes, il va... Au contraire, prendre une réalité qui est à peu près celle de la fin des années 70. Donc ça ne va pas être la masure au fond de la forêt, mais ça va être l'appartement de tout un chacun dans une ville, avec une misère qui finalement nous touche encore plus, parce que ça peut être une misère réelle. On n'est plus, alors en quelque sorte, et parfois il a été un peu critiqué là-dessus, mais moi je trouve ça au contraire intéressant, parce qu'il fait sortir le conte de ce temps qui est un temps propre au conte, qui appartient à personne, et à la fois, si vous voulez, en le mettant dans la réalité d'aujourd'hui, il nous montre la permanence du conte.
Tout à fait.
Des fois d'ailleurs, même aujourd'hui, nous, les faits divers nous sautent aux yeux et nous disent c'est de l'ordre du conte ce fait divers. Et ça, Anthony Brown, pour ça, est très fort, parce que justement il y a ce le temps qui se tamponne,
qui s'articule,
qui reste en en lien fait, voilà,
oui, avec l'actualité fait. D'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il revendique ça aussi, je trouve que c'est renforcé aussi par le fait qu'il dit que c'est un conte sombre. Il l'a illustré sombrement aussi. Mmh. Et moi, ce que je relève dans ça, c'est que ben, il n'y a pas d'émotion édulcorée. On est aussi dans, voilà, dans la vérité
on
des émotions
toujours,
et
oui.
de cette actualité dont vous nous faisiez part.
Toujours, Chantine, on y prend. Rien n'est édulcoré. Oui. Jamais. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Mmh.
Donc, vous avez évoqué donc, quelques livres d'Anthony Brown. Est-ce qu'il y a d'autres livres dont vous voudriez éventuellement nous parler? Bon, une histoire à quatre voix.
Alors, bon, voilà, moi, bien sûr, il y a une histoire à quatre voix. Il y a le tunnel. Et je dirais aussi, c'est un aspect, bon, on ne va pas trop peut-être en parler là parce qu'on n'en a pas le temps. Mais ce qui est intéressant aussi chez lui, c'est son côté, le rapport à l'art. Hein, parce que très souvent, chez Anthony Brown, il y a notamment un livre qui s'appelle Les tableaux de Marcel, où on a une sorte de parodie des grands tableaux que tout le monde connaît. Donc, La Joconde revue par Marcel et par Anthony Brown.
Des clins d'œil à l'histoire de l'art.
Des clins d'œil.
Un mouvement surréaliste.
Tout à fait. Hein, de toute façon, parfois, il le dit franchement, parce que certains de ses livres sont des jeux sur des références
artistiques,
de peinture très précises, et parfois il ne le dit pas, il le cache, mais en fait toute son œuvre est truffée de références, et parfois aussi de références à d'autres illustrateurs, par exemple du Petit Chaperon Rouge,
John Tenniel.
Voilà, John Tenniel, à Walter Crane, bon ça c'est un peu plus spécialisé, mais c'est vrai que c'est vraiment toute son œuvre est jonchée de références picturales.
Et justement, si on regarde toute son œuvre, lui aussi crée des références picturales. Le jacquard, les bananes, les rayures.
tout à fait. Hein, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est que si on a le temps et si on a l'envie, si on prend toute son œuvre, c'est-à-dire quand même plus d'une trentaine d'albums à peu près, eh bien on va voir qu'il y a des correspondances d'images. Il y a des, ce qu'on l'a déjà dit, il y a donc des personnages récurrents. Il va y avoir c'est très intéressant parce que je trouve que ça se répond. Les albums à des années d'intervalle se répondent. Par exemple, une histoire à quatre voix, c'est une sorte d'écho d'un livre qui est très peu connu, mais qu'il a écrit donc à la fin, au tout début ou à la fin des années 70, et qui s'appelle Une promenade au parc. Hein, donc voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, et je crois que c'est ça qui fait les grands artistes en littérature de jeunesse, hein. C'est qu'ils restent pas uniquement sur il y a de l'épaisseur, quoi. Il y a
oui,
de,
tout à fait, voilà. Oui. On est dans un rapport franc à l'enfance, en
oui.
fait.
Hein, en plus,
avec des invitations à rêver, à imaginer, à vivre intensément les émotions des personnages et à revisiter du coup ses propres émotions, hein, et avec une multiplicité de regards attisés justement par tous ces éléments constitutifs que vous venez d'évoquer.
Et je voulais dire, dans les images, souvent les enfants voient plus de choses que nous, parce que comme Anthony Brown est un blagueur, il cache beaucoup de choses, et les enfants voit des choses qu'on ne voit plus du tout. C'est très intéressant de regarder un livre d'Anthony Brown avec un enfant.
Alors revenons à l'exposition donc prévue à l'Alcazar qui débute le 7 octobre. L'inauguration a lieu le 7 octobre en fin d'après-midi à 18h30. Comment est-ce qu'elle est construite cette exposition? Qu'est-ce qu'elle a de singulier? Je crois qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir les œuvres des originaux.
Voilà, nous sommes très contents parce que justement on va avoir un prêt de 80 dessins originaux. Donc ils vont reprendre les plus grands albums dont on vient de parler. Et c'est toujours intéressant de confronter le dessin original à l'album. Il va y avoir donc ça c'est vraiment le cœur de l'exposition. Donc les plus de 80 dessins originaux. Il va y avoir alors Anthony Brown doit nous faire une petite surprise. Il doit nous apporter des objets, des personnels. Alors là je peux pas encore en dire plus parce que
ça attise notre curiosité.
Voilà. Et on a la chance, il viendra monter l'exposition avec nous. Donc voilà, on est très contents. Mais là, ça sera un peu la surprise, voilà. Et ce qu'on a fait, c'est que par rapport aux enfants, donc il va y avoir des ateliers musicaux avec le CFMI. Il va y avoir des visites, bien entendu, commentées pour les scolaires. Hein, donc tout ça, c'est il faut prendre rendez-vous. On va faire aussi des visites spécifiques pour les enfants malvoyants. Et bien entendu, je le dis parce que Nathalie est à côté de moi, il va y avoir quand même sur tout le réseau des bibliothèques municipales des ateliers animés par l'association Photokino autour de l'œuvre picturale d'Anthony Brown. Et nous avons aussi édité un petit livret jeu pour les enfants qui sera une sorte de j'appelle ça une sorte de premier catalogue d'exposition. Voilà. Je continue peut-être. Oui. On a la chance d'avoir Anthony Brown et il vient pour une conférence donc là qui est il y a plus de place. Hein, je préfère le dire avant. Donc c'est une rencontre avec les adultes où il va parler de son œuvre. Mmh. Voilà.
Donc on peut se contenter de s'immiscer et de partager les albums d'Anthony Brown avec les enfants. Et si la curiosité grandit en vue d'entrer en profondeur dans les détails, donc et la densité de ce qui fait la force de l'œuvre d'Anthony Brown, donc vous venez d'évoquer la programmation, une rencontre, une conférence, une exposition, des ateliers. Donc le tout, c'est du 7 octobre au 7 novembre.
Du 7 octobre au 18 novembre.
Pardon.
Hein, donc l'expo durera donc du 7 octobre au 18 novembre avec donc un temps fort le 7 octobre avec donc la conférence Anthony Brown. Et je le précise aussi, il y aura une vente suivie de dédicaces donc le 7 octobre vers les 12 heures.
Hein, à l'Alcazar,
bien sûr. Oui, à
donc pour de plus amples informations, pour tout renseignement, numéro de téléphone le 04 91 55 90 00, un site www.bmvr.marseille.fr. Est-ce que j'oublie quelque chose, Anne-Marie Faure?
Non, vous n'oubliez rien. Merci beaucoup.
Ben, merci à vous et à très bientôt.
J'espère.
c'était Caravan Palace, Je m'amuse, extrait de l'album au titre éponyme chez Wagram, paru en 2008. Pour suivre, l'actualité du petit cinéma de Photokino nous emmène en Camargue et dans le Paris des années 50, et ce, dès le mercredi 7 octobre, au cinéma Les Variétés. Une rubrique animée par Nathalie Guimard.
Le petit cinéma.
Mercredi 7 octobre à 10h, c'est la rentrée pour le petit cinéma. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, petit rappel. Depuis 2005, le petit cinéma vous donne rendez-vous tous les premiers mercredis du mois au cinéma Les Variétés à 10h, avec un film, d'animation ou pas, du monde entier, d'hier ou d'aujourd'hui, pour tous, petits et grands. La séance est toujours précédée d'un atelier à 9h, sur inscription seulement auprès de Photokino. Et depuis 2007, grâce à Marie-Dominique et à Radio Grenouille, vous pouvez écouter quelques extraits sonores, bien choisis, du prochain film de la programmation. Je précise que les nouveaux programmes seront bientôt distribués en ville. Vous y découvrirez les 9 films qui passeront d'octobre à juin, mais aussi de nouveaux personnages créés par Benoît Bonne-Maison-Fitt, rien que pour le petit cinéma. Avis aux collectionneurs.
Un caillou dans la chaussure.
Le petit cinéma.
C'est par deux grands films du cinéma français que démarre la 4e saison du petit cinéma. 2 courts-métrages, mais néanmoins grands, que sont Crin blanc et Le ballon rouge du réalisateur français Albert Lamorisse. La séance commencera par Crin blanc, au cœur de la Camargue, filmé en noir et blanc en 1953.
De la France, là où le Rhône se jette dans la mer, il existe un pays presque désertique appelé la Camargue, où vivent des troupeaux de chevaux sauvages. Crin blanc était le chef de l'un de ces troupeaux. C'était un cheval fier et redoutable à qui tous les autres chevaux obéissaient. Il n'aimait pas les hommes et s'il le fallait, il savait leur faire face. Mais un jour, les hommes décidèrent de le capturer. Et ce jour-là, l'histoire de Crin blanc parmi les hommes commença.
Crin blanc. Sauriez-vous l'apprivoiser ? Falco est un jeune pêcheur, sans peur, épris de liberté. Dans des paysages magnifiques, sa barque glisse entre marais sauvages et rêves scintillants. Car Falco admire ce beau cheval et il rêve de pouvoir devenir son ami. À pas de loup, les pieds dans l'eau, lasso dans le dos, il fera preuve de beaucoup de patience pour approcher et capturer le bel animal. Les roulements de tambour sont de Maurice Leroux. La musique est très importante dans ce film, quasiment sans dialogue. Ce sont les regards qui parlent. Falco vit au cœur des marais dans une petite cabane avec son grand-père, qui rafistole les filets de pêche, et son petit frère haut comme trois pommes. Les gardiens, ce sont les gardiens des manades. Les gardiens ne peuvent imaginer qu'un petit garçon comme lui puisse apprivoiser le grand crin blanc. Et il se moque de Falco. La cruauté fait partie de l'enfance. Et Albert Lamaurice parle merveilleusement bien de l'enfance, avec beaucoup de tendresse et de poésie. Ses films parlent avant tout de liberté, d'amour et d'amitié aussi. Son premier court-métrage, en 1949, Bim le petit âne, enthousiasma Jacques Prévert, qui proposa d'en faire un livre et offrit plus tard sa voix au film pour introduire cette histoire, dans laquelle chaque enfant avait pour compagnon un âne sur une île imaginaire. Un conte, une fable pour enfants, comme le sont quasiment tous les films d'Albert Lamaurice. Sa pellicule semble enchantée. Elle joue avec le réel, en le filmant même parfois depuis les airs, comme dans Le Ballon Rouge, son troisième court-métrage, présenté en seconde partie de cette séance du petit cinéma. Thank you. Dans un Paris gris-bleu des années 50, un petit garçon en culotte courte descend les escaliers de la butte et libère un superbe ballon rouge, rouge vif, accroché à un réverbère. À la surprise des habitants du quartier, le ballon rouge va le suivre partout dans les rues de Paris et défile sous nos yeux, tel un inventaire à la Prévert, de vieilles affiches de music-hall, des rigoles d'eau au milieu des pavés, une péniche, une voiture à cheval. Le beau ballon rouge semble vivant. Le petit garçon n'a qu'à l'appeler pour qu'il apparaisse au-dessus de sa tête et l'accompagne sous les parapluies des passants, derrière l'autobus, jusque dans la cour de l'école, dans les ruelles de Ménilmontant ou de la Porte d'Orléans, suscitant la convoitise des autres enfants. Va-t'en, ballon, va-t'en, ou les enfants t'attraperont. Trop tard, dégonflé, l'histoire est terminée. Mais non, la magie commence vraiment. Tous les ballons de Paris se libèrent des petites mains qui les retenaient, tous plus beaux et colorés les uns que les autres dans ce Paris bleu-gris. Tous les ballons se rejoignent en file indienne, en farandole, pour aller réconforter ce petit garçon et l'emmener avec eux au-dessus des toits de Paris. Une très belle scène finale donc au-dessus des toits de Paris. D'ailleurs, Albert Lamoris sera plus tard l'inventeur de l'hélivision ou de la prise de vue depuis hélicoptère pour un vrai voyage des yeux. Pour son premier long métrage, Le voyage en ballon, réalisé la même année que Le ballon rouge en 1956, un peu comme une suite d'ailleurs, avec toujours son fils Pascal comme acteur principal.
Le petit cinéma.
Cette histoire, tout comme Bim le petit âne ou Crin blanc, a été transposée en livre pour enfants par Albert Lamoris, avec les photos du film. Et parlons donc un peu de photographie justement, car elles sont magnifiques ces images. Et elles sont dues un peu, beaucoup aussi, à Edmond Séchant, qui était le chef opérateur de Lamoris sur Crin blanc et Le ballon rouge. Je vous ai apporté des livres qui sont édités à l'école des loisirs, qui reprennent les images. Et puis quelques petits scoops, parce que, en faisant mes petites recherches pour l'émission, j'ai appris que Edmond Séchant était l'oncle de Renaud, le chanteur. Et que, justement, dans Le ballon rouge, on voit le petit Renaud, âgé de peut-être 3 ans, avec son frère jumeau David. Et c'est une image qui m'a beaucoup marquée parce qu'ils sont tous deux habillés tels des chaperons rouges. Alors, on ne le voit pas là dans le livre, Marie-Dominique, pas la peine de chercher. Il faut aller voir le film. Et donc, ils sont tous les deux avec ce petit caban rouge, tu sais, avec le chapeau pointu. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je cherchais le nom. Enfin, en tout cas, c'est comme des petits chaperons rouges, main dans la main, tenant chacun dans leur main le même ballon bleu.
Et c'est une image très forte, une des images oniriques comme sait les faire Albert Lamouris. Autre scoop, décidément, Albert Lamouris est aussi l'inventeur du jeu Risk.
Ah bon,
bah oui, moi aussi j'ai fait comme toi. Voilà, juste donc pour vous dire que de très belles images vous attendent dans ces deux films et vous pourrez les découvrir en copie neuve puisque les films ont été restaurés en 2007. Vous retrouverez toute la programmation du Petit Cinéma sur le site de Photokino, photokino.org.
Un caillou dans la chaussure.
L'Institut de l'Image, c'est le nom d'une salle de cinéma située au cœur de la Cité du Livre, à Aix-en-Provence. C'est aussi un des piliers du pôle régional d'éducation artistique et de formation au cinéma et à l'audiovisuel, avec l'Alhambra Ciné Marseille et l'Espace Magnan à Nice. À l'occasion de ses 20 ans, la très sympathique équipe de cette salle de l'Institut vous invite le mercredi 30 septembre à 20h30 pour une soirée spéciale éducation artistique. En entrée libre, cette soirée vous présentera les films d'atelier les plus marquants qui racontent une autre histoire de l'Institut de l'Image, celle de son action envers les publics jeunes et qui permet, par le biais de la pratique artistique, de découvrir autrement le cinéma. De nombreuses personnes qui œuvrent dans le domaine de l'éducation à l'image ou de la transmission du 7e art aux plus jeunes sont donc invitées, des associations, des réalisateurs, des enseignants, des artistes. Vous présenteront à tour de rôle quelques extraits de leur expérience menée avec le concours de l'Institut de l'Image. Des expériences diverses et variées qui défendent la pluralité des regards essentiels. Le Petit Cinéma vous donne donc rendez-vous mercredi 7 octobre avec Crin Blanc et Le Ballon Rouge. À bientôt.
Children,
prochainement à Marseille, festival Les Littorales, le rendez-vous des livres et des auteurs organisé par l'association Libraire à Marseille, un festival qui se déroulera du 7 au 11 octobre avec des rencontres littéraires, des projections et des animations autour de l'écriture, du livre. Signalons les ateliers menés par les associations ACLM et C'est la faute à Voltaire, les samedis et dimanches sur le cours d'Estienne d'Orve, ainsi que des ateliers d'illustration en bande dessinée. Tout le détail du programme sur le site des libraires indépendants www.librairie-paca.fr. Je fais vite, le temps est compté. Au cœur des littorales, quelques événements à propos d'enfance autour de l'enfance. Et notamment avec Nathalie et Photokino, un partenariat pour deux temps forts. Une rencontre le dimanche après-midi sur le cours d'Estienne d'Orve en présence d'un auteur, Stéphane Malandrin, auteur d'un livre qui s'intitule Panique au village, titre aussi d'un film, long métrage qui sera aussi diffusé en avant-première le dimanche à 18h, c'est ça, au cinéma Les Variétés. Alors Panique au village, ça vous dit peut-être quelque chose, je crois que c'est une histoire, une aventure qui est partie de Belgique, Nathalie.
Avec des cow-boys et des indiens.
Voilà.
Oui, alors c'est une série à la base créée par Vincent Patard et Stéphane Aubier, qui à la base avaient un des projets chacun de leur côté. Vincent avec un cheval, justement. Stéphane plutôt avec... un cochon, j'allais dire. Non, enfin, bref. En tout cas, Stéphane, de son côté, avait fait en fin d'études un petit film avec des jouets du type, vous savez, les cow-boys, les indiens, les animaux de la ferme en plastique, là, qu'on peut trouver.
Des petites figurines,
mais de rien du tout. Enfin, ce qu'on appelle les jouets cheap, là, qui sont mal peints, un peu tordus, avec un œil de travers. Donc avec ça, il avait fait un petit film d'animation qui était tombé dans l'œil justement d'un programmateur, je crois, ou d'un producteur. Il lui a proposé de faire une série avec ça. Donc là, il a appelé son copain Vincent Patard, et ensemble, à partir de ces petites figurines, ils ont souvent trouvé des cow-boys et des indiens, donc voilà, et des chevaux, enfin, surtout un cheval. Donc, ouais, est né Panique au village avec cheval, cow-boy et indien. C'est le nom des personnages. mais aussi Steven, le fermier, et Janine, sa femme. Voilà, c'est une série tordante. On a déjà montré quelques cours de la série, des épisodes. Et là, le film sort au mois d'octobre, le long métrage. On croyait pas que ça allait être aussi drôle, parce que faut tenir la route, hein, toujours avec ces petits bouts de figurines moitié tordues, collées, avec le bras collé pour faire des mouvements et tout ça. C'est du bricolage. Et ça tient la route. C'est même encore plus dingue que la série, encore plus speed. Donc voilà, il faut voir ça. C'est en avant-première, comme tu le disais, dimanche 11 octobre à 18h au cinéma Les Variétés. Et Stéphane Malandrin est l'auteur des dialogues et donc sera là aussi pour en parler.
Merci Nathalie. Bah, peut-être qu'on peut... Une mise en bouche, on écoute un extrait.
Oh, oui.
Ah, la voilà.
Où ça? Attends-moi. Ok.
Oh, ils arrivent. Vite, à terre.
Oh mon Dieu, Janine! On va se couper en deux! Janine!
Allez, Steven, on ne peut pas la laisser là!
Viens, Janine, on va la recoller! Hop! Allez, on va! Tiens, ça va marcher! Alors, fou!
Une seconde, cowboy, une seconde!
Mon tracteur! Putain! Cowboy! Aïe! Salon! Allez, voilà!
Ok, chèvre, ouvre la soute.
Oui, voilà, Janine.
Oh, mon vache! Allez, sautez! Plus vite! Ouais!
Alors, toujours dans le cadre du festival Les Littorales, un moment aussi autour de la jeunesse, autour de l'enfance, avec la compagnie Peanuts, une lecture théâtralisée autour de la figure du bouc émissaire. Donc avec nous aujourd'hui, Stéphane Gisbert, comédien, metteur en scène et directeur artistique du Théâtre du Tétard à Marseille, et Émilie Martinez, comédienne et directrice artistique de la compagnie Peanuts. Alors, ce spectacle autour de la figure du bouc émissaire, d'où ça vous est venu? Je crois que c'est, il y a un texte à l'origine et un travail, une histoire d'une collaboration de quelques années entre vous.
En fait, à l'origine, c'est un projet qui s'appelle Espèce de bouc, les figures, les ateliers, les lectures du bouc émissaire. C'est un travail depuis 2 ans sur les figures de bouc émissaire dans la littérature, ce qui nous a amené donc à chercher dans la littérature des textes qui parlent de ce phénomène de bouc émissaire, donc par rapport au mythe du bouc émissaire. Et donc on a trouvé 2 textes anciens, qui est donc une fable indienne de Pit Pai, qui a 2200 ans, qui a inspiré La Fontaine, les animaux malades de la peste. Et on a travaillé donc cette fable de Pit Pai. Pour les collégiens, on a fait une lecture théâtralisée. C'est un long texte, donc on en a fait une lecture assez formelle, un exercice de style de lecture théâtralisée. Et on le suit donc d'ateliers d'écriture et de théâtre autour des figures de bouc émissaire. C'est un projet de sensibilisation autour de ce thème. Et après cette expérience-là, on a eu envie de se pencher sur La Fontaine, les animaux malades de la peste. Et on a travaillé là plus en direction des enfants. Et on a travaillé donc à partir d'improvisation sur le phénomène de bouc émissaire pendant l'enfance. Et on s'est un peu centré sur la cour de récréation. Et parce que la fable de La Fontaine est très courte, donc en faire qu'une lecture, c'était pas possible. Et c'est un texte assez dur. Mmh. Et du coup, on est parti autour d'improvisation de comédiens sur donc les relations de bouc émissaire. Et on a fait ce croisement entre la lecture et les improvisations sur voilà, des événements dans la cour de récréation.
D'accord. Donc le bouc émissaire, est-ce que est-ce que vous pouvez compléter, expliquer cette image, pourquoi avoir travaillé autour de cette notion? Est-ce que l'objectif c'est de dissuader les enfants d'être cruels entre eux?
Oh, l'objectif il est plus vaste, mais en fait c'est suite à une conférence qu'a suivi Émilie où elle s'est rendue compte de la richesse du thème du bouc émissaire, qui est un thème en fait qu'on peut retrouver d'une façon dans les relations presque intimes, mais aussi d'une façon beaucoup plus globale dans le politique par exemple. Et donc ça nous est apparu un thème intéressant, et en le travaillant, il nous est apparu encore plus intéressant. En fait, on s'est rendu compte que c'était une thématique qu'on retrouvait dans toutes les parties de la société humaine et politique. Donc il y a à faire quoi. Donc on a choisi un premier texte qui était la fable, qui nous paraissait illustré, et après le texte de La Fontaine qui peut-être est plus c'est ce que disait Émilie tout à l'heure, qui est plus intéressant pour les plus jeunes. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est pour ça.
Et donc du coup, vous avez choisi, donc là on rentre tout de suite dans la pièce, on n'a pas trop le temps de développer, mais donc concrètement sur scène, vous êtes deux comédiens et vous avez choisi l'univers de l'école pour faire cette lecture théâtralisée. Pourquoi ? Parce que vous pensez que ça parlera mieux aux enfants ?
C'est ce que disait Émilie tout à l'heure, c'est-à-dire que le texte de La Fontaine est court, hein, lu normalement, il va durer 3-4 minutes. On voulait quand même faire un spectacle un peu plus long. Ça, c'est tout bête, hein, mais c'est quand même un problème concret. Et on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un travail digressif à faire autour de la lecture elle-même. Et ensuite, on est parti d'improvisation de comédiens, de souvenirs, de choses plus ou moins proches de nous. Mmh. Et en fait, ce travail digressif est venu envelopper, en quelque sorte, la lecture de la fable elle-même. Mmh.
Oui, puis c'était aussi pour enrichir en fait aussi ce qu'on pouvait amener sur La Fontaine et sur ce texte, parce que c'est très riche et du coup c'était difficile de le réduire à juste une explication de texte. Et puis c'était l'envie aussi, parce que depuis 2 ans on travaille comme ça aussi, c'était d'interroger aussi nous-mêmes et un peu tout le monde sur ce phénomène.
Donc une thématique qui a traversé le temps et qui n'a pas forcément pris une ride, qui est encore un sujet d'actualité. Donc le prochain rendez-vous pour pouvoir vous voir sur scène, c'est dans le cadre des Littorales, le samedi 10 octobre aux Arsenaux sur le cours d'Estiendorf, et c'est à 17h, une séance donc qui s'adresse à des enfants à partir de
7-8 ans, parce que le texte est quand même un peu difficile, mais justement c'est allégé et bien rendu compréhensible par les improvisations et le travail qu'on a fait.
Merci beaucoup, merci d'être venu jusqu'à nous pour ce temps si bref, mais voilà, le temps nous est compté. Merci beaucoup.
Vous écoutez Radio Grenouille sur 88.8.
Comme je le disais en tout début d'émission, la rentrée est dense. Nathalie, tu avais encore envie de nous parler de Munari, Komagata, encore des rencontres, des ateliers.
Non, des grands noms, hein. Après mais Anthony Braun, Bruno Munari, Katsumi Komagata, tout ça à Marseille au mois d'octobre. Incroyable. Alors Bruno Munari, peut-être on n'en a pas assez parlé ici, mais je pense qu'on en a déjà parlé. C'est un des grands créateurs de la littérature jeunesse, un artiste avant tout, un designer qui a notamment exploré la transmission de l'art aux enfants. En fait, toute sa vie, il a fait des expériences. C'était quelqu'un qui essayait et puis qui était très curieux, donc quelqu'un de passionnant. Et puis qui a beaucoup écrit aussi. Et la chance qu'on a, c'est que l'Institut culturel italien et la librairie Imbernon s'associe pour accueillir une exposition à l'Institut culturel italien d'originaux de cet artiste, donc des dessins, mais aussi des sculptures, beaucoup de livres, parce qu'il a fait énormément de livres, et ça sera l'occasion d'ailleurs de découvrir un nouveau livre sur ses livres, qui sera présenté le 6 octobre, et surtout l'occasion peut-être de mieux connaître son travail à travers des ateliers le 24 octobre. Et là, pourquoi Katsumi Komagata ? Parce que c'est ce monsieur, ce grand monsieur qui vient du Japon, donc il ne vient pas à Marseille tous les jours, qui est un des héritiers, on va dire, de Bruno Munari dans son travail. On en a déjà parlé ici, hein, Marie-Dominique. Mm-hmm. On l'a rencontré
on
même.
On l'a même rencontré.
Voilà. Donc, Katsumi Komagata, le 24 octobre, sera à la Cité Radieuse le matin, devant la librairie Imbernon pour un atelier autour du papier, des formes, des couleurs, donc un atelier intergénérationnel. Réservez vite vos places. Ou l'après-midi sera à l'Institut culturel italien pour un autre atelier un peu différent. Voilà.
Merci Nathalie. Un caillou dans la chaussure, c'est déjà terminé. Retrouvez les archives sonores sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org. Notre prochain rendez-vous est pris le mercredi 28 octobre à 11h. Merci à toute l'équipe au micro, en coulisses, Nathalie Guimard et Sébastien Gény. Très bonne journée entre livres, cinéma, musique, jeux, ateliers, théâtre, littérature et Radio Grenouille, bien sûr.